Journée de campagne. Bonjour, quatrième étape dans le Rhône et je commence par une problématique qui est aussi bien partagée par la campagne que par la ville, la transition énergétique. Pour répondre à ce défi, les coopératives de production énergétique locale se multiplient. La dernière en date, en tout cas parvenue dans notre boîte, est née à Lyon, dans la métropole lyonnaise, sous le nom de Toit en Transition. Cette association ouvre un appel à financement participatif sous le nom de 1-2 Toit Soleil. C'est bien vu. Le but est d'équiper les toits des écoles de la métropole en panneaux photovoltaïques et par la même occasion d'informer les plus jeunes sur les enjeux futurs que représentent les énergies vertes. Une dizaine d'écoles se prédisposent déjà à recevoir ces installations en plus des deux premières écoles de Grigny équipées. Toitentransition.weebly.com pour l'adresse. Le principe des coopératives citoyennes, justement comme on les appelle fréquemment, est un des dossiers retenus par le magazine Village dont le dernier numéro d'automne vient de paraître. Présentation tout à l'heure du dossier avec Sylvie Le Calvez, directrice éditoriale du magazine. Mais tout d'abord, place à une nouveauté dans la gamme des services et des métiers avec celui de réconciliateur paysager en la personne de Samuel Bonnefoy qui nous attend à Pierre-Bénite.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Samuel Bonnefoy, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci pour votre courrier, Samuel. Vous qui vous définissez comme réconciliateur paysager, quand on dit qu'on réconcilie, ça veut dire qu'il y a eu auparavant cassure, fracture ou divorce.
Oui, effectivement, ouais. Il y a l'idée de remettre ensemble, d'avoir à nouveau un regard positif.
Le divorce était consommé entre qui, l'homme de tous les jours et son environnement naturel, ou entre qui et qui?
Effectivement, oui, je pense qu'aujourd'hui, dans les aménagements paysagers, il y a une espèce de standardisation qui fait que on a des aménagements paysagers qui répondent pas forcément à l'identité du lieu. Donc l'idée, c'est de réconcilier, c'est-à-dire de remettre de la valeur entre ces aménagements, les hommes et les femmes, et puis le territoire.
Ça veut dire retravailler l'espace paysager à partir d'essences locales ?
Notamment. On travaille donc avec les ressources locales, donc ça veut dire en termes d'essence, mais ça veut dire également en termes de compétences chez les habitants, chez le service technique, chez les élus. Ça veut dire aussi du matériel, du bois, du mobilier qui reste peut-être un petit peu inutilisé dans les entrepôts d'une mairie.
Oui.
Voilà, c'est de travailler avec tout ce qui existe déjà.
Oui. Alors l'idée justement de la réconciliation que vous proposez à travers votre bureau d'études Catalpa, c'est de réunir des élus d'une collectivité, mais de réunir aussi les habitants, de les solliciter, leur regard sur leur environnement, et là vous les conduisez vers une médiation qui permettra de créer un nouvel espace.
Voilà, exactement. Mon rôle, c'est de constituer une équipe en premier, donc avec des élus, le service technique, les habitants, et de voir tous ensemble comment est-ce qu'on conçoit un aménagement paysager qui répond à des réels besoins, et puis comment est-ce qu'après on le réalise.
Il y a des collectivités qui sont demandeuses d'un nouvel aménagement, elles qui sont de plus en plus gourmandes en espace foncier et en construction, c'est pas contradictoire?
Alors, le problème qui avait été identifié auprès des collectivités, c'était surtout qu'on avait un discours de « on n'a pas les moyens ».
Oui.
Et donc nous, on s'est dit plutôt que de voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein. On va dire si, malgré les baisses de dotation de l'État, la collectivité, elle continue à avoir des moyens. Et des moyens pas forcément financiers. Donc on en revient aux ressources qui sont présentes sur place. Et donc, on fait avec ces ressources-là. Donc, la collectivité, bien sûr, elle est en demande de nouvelles méthodes, en fait, de nouvelles méthodes pour améliorer le cadre de vie à moindre coût et avec plus de sens.
Donc, vous constituez une équipe de travail avec les élus, les habitants, les services techniques des localités. Vous réalisez un diagnostic et ensuite, vous allez choisir donc des orientations d'aménagement. Et c'est là le plus difficile parce qu'il y a quand même une souffrance aujourd'hui. C'est la souffrance que j'appelle le syndrome du propre et de l'hygiénique. C'est-à-dire, ce sont des décors paysagers qui sont tracés au cordeau.
Oui, tout à fait. Alors... C'est là qu'il y a une autre partie du travail qui est de soulever ce que collectivement on a envie de faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des images préconçues dans la tête. Que, un aménagement paysager en premier lieu, le truc le plus important, c'est la sécurité. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que c'est pas ça notre premier besoin. Notre premier besoin, c'est d'avoir un lieu qui est chaleureux.
Mmh.
Et en fait, quand on on met un peu les pieds dans le plat et on dit ok, on met de côté ces réponses toutes faites et on voit ce que collectivement on a besoin. Ben c'est là qu'émerge une réponse qui est unique, en fait. Mmh,
mmh. Et alors, l'année prochaine, vous allez battre la campagne pour sensibiliser les mairies à ce principe de chantier participatif.
Tout à fait. On propose, en fait, aux mairies de découvrir la démarche et de voir si la démarche fait écho et puis de mettre en place un programme qui débouchera sur un aménagement.
Mmh. Et on se pose la même question quand on est au cœur d'un quartier urbain que dans un village rural.
Effectivement, je pense que les besoins d'un être humain, on va dire, en ville et à la campagne, sont relativement les mêmes. Après, oui. On est sur peut-être un peu plus de complexité en ville, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'il y a plus d'usages sur un espace public. Mmh.
Vous avez créé donc le bureau d'études Catalpa en 2015 au sein d'une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Graines de Sol. Il y a un site, hein, BE, comme bureau d'études, becatalpa.com pour l'adresse internet. Merci beaucoup, Samuel.
Merci beaucoup, Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Plus de 30 ans après sa disparition en France, la bouteille consignée fait son retour. C'était déjà le cas chez les micro-brasseurs dans certains restaurants. Et la phase du tout jetable, c'est vrai, est en perte de vitesse, très nette. La consigne commence à intéresser les industriels, les collectivités. Plusieurs raisons à cela. Elle permet une économie d'énergie non négligeable. Elle réduit considérablement et pour cause le traitement des déchets, en sachant que 2,3 millions de tonnes de verre sont traitées chaque année en France, qui représente 49,6%, c'est très précis, du poids total des déchets ménagers. Des précisions rapportées par le réseau national consigne, réseau national consigne.com, si vous voulez avoir de plus amples détails. Enfin, la consigne réduit considérablement le coût supporté par la collectivité. Une bouteille consignée coûte 2 à 7 fois moins cher qu'une bouteille recyclée. En effet, le recyclage du verre est estimé à 35 euros la tonne et son enfouissement bien plus cher, à 106 euros la tonne. Le dernier projet de mise en place de la consigne s'appelle Concilion. Un projet écologique et social dans la région lyonnaise qui consiste à créer des lieux relais pour le dépôt des bouteilles, puis à assurer leur transport en triporteur par des salariés en insertion et à proposer le lavage et le séchage. Tiens, c'est marrant de dire le séchage. C'est là la nouveauté des bouteilles à des salariés en situation de handicap ou en recherche d'emploi. Concilion est en cours de montage, son réseau est de collecte, de transport et de traitement. Les initiateurs ont également ouvert une campagne de financement participatif. Concilion.airlab.fr et les bouteilles remises en circulation porteront, comme il se doit, le fameux pictogramme précisant leur convenance. En duplex de Caen, comme prévu pour le magazine Village, Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village, dont le numéro d'automne vient de sortir, c'est le numéro 133, avec des dossiers qui, comme toujours, épouse la forme des carnets, les centres d'intérêt des carnets. On commence aujourd'hui par les énergies dites citoyennes. Alors, ce sont des coopératives d'habitants qui ont décidé de louer leur toiture. Alors, on parle beaucoup de photovoltaïque ou de relancer l'énergie hydraulique pour faire avancer le projet des énergies renouvelables qui manque encore. Il faut continuer à les multiplier. Le dossier s'appelle « Des citoyens pleins d'énergie ». Et effectivement, on peut, vous avez l'exemple dans la Drôme de producteurs d'électricité, des citoyens qui proposent leur toiture. Et en échange de cela, il y a une participation financière. EDF rachète l'électricité et le surplus est distribué aux actionnaires.
Oui, alors Philippe Bertrand, vous avez tout dit, voilà, ou presque.
Merci, non, au revoir. C'est vrai que... J'étais un peu long, je devrais pas faire ça.
En tout cas, effectivement, on le sait, la France a beaucoup investi dans la production d'énergie d'origine nucléaire. C'était opaque, ça l'est toujours, ça concernait pas le citoyen. Et le citoyen, aujourd'hui, ça lui déplaît un peu cette façon de faire et a envie aussi de se réapproprier non seulement son alimentation, par exemple, mais aussi son énergie. Et de plus en plus de projets collectifs, de citoyens, se montent à l'échelle de villages, de communautés de communes pour produire soit de l'énergie à partir de panneaux solaires, soit effectivement hydroélectrique, soit éolien. Alors, investir tout seul, c'est cher, c'est pas facile, c'est une prise de risque. Investir à plusieurs, c'est une belle aventure.
Et surtout que le prix de rachat de l'électricité par EDF a largement diminué.
Oui, alors effectivement, c'est moins intéressant en termes de coût de rachat par EDF, puisque tout doit repasser dans le réseau EDF, c'est bien de le préciser quand même. Mais les coûts de panneaux ont aussi baissé. Donc c'est vrai que ça devient quand même intéressant d'investir là-dedans. Et surtout, chez soi, on a envie d'investir pour du solaire dans son village, mais on n'a pas forcément la toiture qui est de la bonne surface, qui est bien exposée. Alors que quand on fait un projet collectif, ça permet qu'on choisisse ensemble les toitures les plus adaptées, les mieux exposées. Et aussi, ça permet de réduire les coûts d'investissement, parce qu'évidemment, les fournisseurs font des prix parce qu'on investit en plus gros. Le cabinet d'études qu'il faut prendre pour faire l'étude préalable, là aussi, ça revient à moins cher quand on est un collectif. Donc, c'est vrai que ce sont des initiatives qui marchent et des initiatives à suivre.
Il y a une critique qui revient assez fréquemment dans les carnets de personnes qui, effectivement, sont en accord avec ce développement des énergies renouvelables, mais disent... C'est notre facture, la contribution aux énergies renouvelables sur notre facture qui permet de monter ce genre d'opération. Alors ce qui est vrai, mais ce sont pas des opérations très lucratives, parce que la vente de l'électricité permet en général de couvrir les frais d'achat, d'installation des panneaux, et finalement ce qui reste aux particuliers, aux membres des groupements coopératifs, alors il y a des SIC aussi, et des sociétés coopératives intérêt collectif, ce petit plus est très modeste.
Oui, effectivement, un petit plus qui est modeste une fois que tous les investissements sont remboursés, c'est plus un choix de dire on veut que notre énergie provienne d'énergie renouvelable. Les gens qui font ça, ils font surtout pas ça pour se faire de l'argent, mais pour choisir un autre mode de production énergétique où tout est beaucoup plus transparent et local.
Oui. Bon, on dit quand même que globalement, le rendement pour chaque contributeur est pas inintéressant. C'est mieux qu'un livret d'épargne, comme dit un des interlocuteurs.
C'est ça, c'est mieux qu'un livret A ou un livret d'épargne, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est intéressant en termes d'impact et puis aussi de lien entre les habitants, de façon de se réapproprier quand même un secteur qui est ô combien crucial pour la vie. Quand même, on va vers une plus grande autonomie locale en matière de production énergétique. On n'a pas parlé beaucoup dans ce dossier non plus de méthanisation de chaudières bois, mais il y a des projets collectifs aussi autour de ce type de production énergétique.
Une dernière chose, Sylvie, dans le magazine Village, on annonce 2000 sites hydrauliques délaissés, donc qui pourraient reprendre vie.
Oui, c'est vrai qu'il y a des sites hydrauliques qui pourraient être valorisés, mais il y a aussi des freins. Il y en a qui disent « Ah, mais oui, mais c'est peut-être pas bon pour la continuité des cours d'eau, pour la biodiversité. » Et je pense qu'on pourrait retrouver, tout en ayant des conditions qui seraient bonnes pour la biodiversité, avec des passes à poissons et autres, une énergie propre à travers tous ces anciens sites hydrauliques qui ont été délaissés, y compris des moulins de particuliers d'ailleurs.
Si on parle beaucoup du photovoltaïque dans ce dossier, c'est parce que il est à la portée quasiment de tout le monde, contrairement à l'éolien. Une zone de développement éolien, c'est au bas mot 10 millions d'euros. Donc on est dans un autre registre d'investissement. L'adresse donc pour retrouver ce dossier est villagemagazine.fr. Merci Sylvie Le Calvez en duplex de France Bleu Normandie-Caen et à très bientôt.
Merci Philippe, à très bientôt.
Je signale qu'au mois de novembre, nous serons dans la Nièvre pour ouvrir le mois, puis dans la Côte d'Or, ensuite dans la Haute-Saône, et enfin dans l'Aveyron pour le mois de novembre. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces lieux. On reste toujours dans notre département, Belleville. Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.